C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, après une petite bordée de brèves, on parlera de cette fameuse histoire de report de la trêve hivernale que notre camarade qui vous en parlera a appelé dans son titre « Vraie, fausse, générosité ».
On parlera ensuite de l'État qui est condamné pour une sacrée inaction climatique. Alors vous verrez, c'est une condamnation très, très, très sévère.
Ouh là là, oui. Un jeune, une solution. Vous avez déjà entendu parler de ce truc. Si vous êtes attentif, vous en avez déjà entendu parler il y a quelque temps. Comment lutter contre le chômage à base d'offres illégales? C'est un jeune, une solution, c'est un sacré bon truc. Les anti-systèmes ne sont pas nos amis. Et oh. Canu Info du mercredi, pro-système, on le sait, on ne le répétera jamais assez. Et puis ça sera l'heure de « Il faut que ça se sache », notre rubrique sur le sens de l'accueil à la française. À Mayotte, des navires privés sont invités à participer à la chasse aux migrants. Aux Canaries, la situation est tendue. Et puis on terminera par un petit conseil de lecture d'un article sur le site Ballast.
Et voilà, et on commence avec quelques brèves.
Et alors on va commencer par une bonne nouvelle. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Kamel Daoudi, le plus vieil assigné à résidence de France, il l'est depuis 13 ans, avait été arrêté il y a 4 mois pour avoir enfreint son couvre-feu. Alors le couvre-feu de son assignation n'a pas le même couvre-feu que nous. Donc le couvre-feu de son assignation résidence de 25 minutes. Alors même si le parallèle s'arrête là, maintenant que la France entière est sous couvre-feu, il est un peu plus facile de s'imaginer que 25 minutes de retard, c'est que dalle quand ça fait déjà 2 mois pour nous. Mais alors imaginez quand ça fait 13 ans qu'on est sous couvre-feu. Autant dire qu'il aurait pu le faire 150 fois, qu'on aurait trouvé ça tout à fait normal. Bref, le tribunal, dans sa première version et dans sa grande souplesse qu'on lui connaît, le condamne à 1 an de prison pour ses 25 minutes de retard. Le 27 janvier se tenait le procès en appel de cette décision, dont le rendu est tombé aujourd'hui. Kamel Daoudi est remis en liberté. Alors attention, on met des énormes guillemets dans ce terme « remis en liberté ». Puisqu'il il retourne dans sa condition de plus vieil assigné à résidence de France. Ce jugement ne casse pas du tout ça. Du coup, il continue à devoir se pointer 4 fois par jour au commissariat. Il est toujours sous couvre-feu. Alors, on ne sait plus trop là si c'est 18, 19, 19, 30. Bref. Voilà, et du coup le tribunal d'appel demande au ministère public, donc en gros à l'État, de justifier d'apporter la preuve de la dangerosité de Kamel Daoudi pour justifier son assignation. Donc voilà. Mais en gros, un autre procès se tiendra le 24 février. Parce qu'en gros, là, le tribunal s'est prononcé sur la forme. Pour le tribunal, il n'était pas question de maintenir Kamel Daoudi sans avoir la preuve de sa dangerosité en détention. Sachant qu'en plus, il était placé à l'isolement, tout ça, tout ça. Et que qu'il se prononcera sur le fond le 24 février. Et en attendant, les preuves, entre guillemets, du ministère public. Donc voilà, donc en gros, ces avocats vont bosser à ce moment-là pour essayer de le faire. Alors, ce que moi, j'ai pas bien compris dans les trucs, c'est est-ce que ça va décider de sa remise en liberté, de la fin de son assignation l'audience du 24 février ou pas. Bon, bah, affaire à suivre. En tout cas, vous pouvez retrouver un excellent compte-rendu de cette audience en appel sur le site rebellion.info ou sur le site lundi matin.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors que la campagne de vaccination française, qui a débuté, comme on s'en rappelle peut-être, le 27 décembre, un tout petit peu après Noël, est régulièrement critiquée pour sa lenteur, eh ben oui. L'annonce de Macron a de quoi surprendre, puisqu'il nous prétend que tous les Français qui le souhaitent pourront se faire vacciner d'ici la fin de l'été. C'est ce qu'il a dit hier soir sur TF1, à l'issue d'une réunion avec les patrons des grands laboratoires français et européens. Décidément, il ne changera jamais. Hein, il changera jamais. On sait bien que tous les hommes politiques font des promesses et ne les tiennent pas. Ça, c'est bon, ça, c'est un peu la nature profonde de l'homme politique.
Et d'habitude, ils font en sorte que leurs promesses sonnent un tout petit peu plus crédibles.
Oui, et puis jusqu'à ce quinquennat, la proportion de promesses non tenues était, disons, un tiers, une moitié parfois, mais enfin, il était contrebalancé par quelques... un truc que les candidats disaient et puis une fois qu'ils étaient élus, ils faisaient. Mais lui, même quand il n'est plus candidat, il continue. Hein. Et avec Macron, surtout, c'est pas un tiers, c'est pas une moitié, c'est pas deux tiers, c'est pas je sais pas quoi, on est proche du 100%. Alors du coup, comme les promesses lui coûtent rien, il y va carrément. Réduction des gaz à effet de serre de moitié d'ici 2050, personne ne dort à la rue d'ici la fin de l'année 2017... Make our planet great again. Et maintenant, bon.
Suppression de l'ISF. Ah non, ça, il l'a fait. Ah, merde.
Ouais, non, ah oui, non. Effectivement, c'est là, il l'a fait. Et maintenant, bah, voilà, tout le monde vacciné avant la fin de l'été. Et puis, si jamais ça marche pas, bah, ça sera pas sa faute. Ça sera peut-être les méchants labos qui ont pas assuré, l'Europe qui a pas fait son boulot, puisque maintenant, pour le coup, là, il fait comme les autres. C'est quand il y a un truc qui va pas, il dit « Ah, c'est la faute de l'Europe. Moi, je suis pour rien. » Peut-être les islamo-gauchistes qui auront dynamité ses efforts. Ou alors, encore, eh ben, il nous prétendra à la fin de l'été que oui, tout le monde est vacciné, même si la veille, vous aurez été à la pharmacie pour essayer de récupérer un vaccin et qu'on vous aura dit non, vous êtes trop jeune, vous êtes trop pauvre, vous n'êtes pas assez français, ou juste vous arrivez trop tard, on va fermer monsieur. Et comme ça, Macron, on le refait pas.
Canu Info. Du mercredi.
Et donc, mercredi dernier, c'était le 26 janvier, est paru en Pologne le décret d'interdiction de l'IVG en cas de malformation grave du fœtus. On en parlait déjà en octobre, on revient dessus, vous allez voir pourquoi. C'est donc une quasi-interdiction de l'avortement, puisque les seuls cas dans lesquels il est désormais autorisé, c'est donc en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. En dehors de ça, les médecins qui pratiqueront une interruption volontaire de grossesse risquent 3 ans de prison. Des milliers de femmes seront contraintes à des avortements clandestins avec les risques que ça comporte. Et le gouvernement polonais, qui est soutenu par l'Église catholique, sera responsable de mutilations graves, voire de mort, puisque donc les fœtus seront pas toujours viables. En octobre dernier, face aux manifestations en Pologne et les manifestations de soutien qui avaient eu lieu partout dans le monde, les autorités avaient dû suspendre une première fois ce décret. Et puis, depuis, l'annonce a été faite par le gouvernement et puis la publication de l'arrêté est parue au journal officiel mercredi dernier. Et là, des manifestations massives ont eu lieu dans toute la Pologne contre cette mesure, donc à Varsovie, mais pas que. D'une manifestation donc mercredi soir, jeudi soir et puis encore vendredi soir, plusieurs milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de Varsovie. Il y a eu aussi donc des rassemblements similaires, je le disais, dans d'autres villes de Pologne. On a pu voir des éclairs rouges, des foulards verts qui sont aussi le symbole de la lutte pour l'avortement en Argentine. Les manifestations se sont interrompues ce week-end, mais bon, on imagine que vu l'ampleur de la mobilisation en octobre, les Polonaises continueront à se battre.
Canu Info.
Alors, nous ici, on avait complètement loupé l'info parce que, surtout, ça a été massivement un non-sujet pour la presse française. Mais figurez-vous que depuis le 22 janvier dernier, le tian, c'est-à-dire le... C'est pas du tout un plat de
un super bon plat provençal.
Comme certains dans ce studio et cuisinent admirablement bien. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit du traité d'interdiction des armes nucléaires. Le traité d'interdiction des armes nucléaires, ce tian, est entré en vigueur le 22 janvier, donc. Il interdit l'utilisation, la menace d'utilisation, la production, l'acquisition et le stockage et le transfert d'armes nucléaires, de bombes atomiques. Un texte d'une nettement plus grande portée que celui de 1970 sur la non-prolifération nucléaire et qui a une valeur contraignante pour la cinquantaine de pays qui l'ont signé à ce jour. Mais pas pour la France. Parce que la France, comme les autres 8 puissances nucléaires, n'a même pas accepté de participer aux négociations. Et même, ils ont fait plus que ça. Tous ces pays qui ont la bombe, ils ont fait pression sur de nombreux pays qui ne l'ont pas, et notamment les pays membres de l'OTAN, pour qu'ils ne ratifient pas le texte. Alors, soulignons quand même que la France, comme donc ces 8 autres pays qui ont la bombe, ont signé le TNP, le fameux traité de non-prolifération qui date donc de 1970. Alors, il l'avait signé surtout parce que ce traité interdisait, et interdit toujours, aux pays qui n'ont pas la bombe, leur interdit de l'acquérir. Mais dans ce traité, il y a quand même un article 6 qui oblige tous les pays qui ont déjà l'arme atomique à négocier en vue de la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée, et de négocier toujours en vue d'un traité de désarmement général et complet. Ben pourtant, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup entendu parler depuis, donc depuis 50 ans que tous ces pays ont signé le TNP. On n'a pas entendu parler de beaucoup de négociations dans ce sens. Ce qui se passe plutôt, c'est que la France, comme les autres puissances nucléaires, investit dans de nombreux types d'armes nucléaires plus utilisables qui abaissent dangereusement le seuil de la guerre nucléaire. C'est-à-dire des plus petites bombes, comme ça on peut bombarder juste un petit coin sans forcément niquer toute la planète. Comme ça, on a plus de chances de l'utiliser réellement. Et puis, comme une sorte de pied de nez, un peu 3 jours avant l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, donc le tian, celui qui date du 22 janvier dernier, le président, notre président Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux armées, s'est lancé dans une sorte de discours à la gloire de la bombe, vantant la fierté de disposer d'une force militaire qui s'entraîne dans l'objectif de pouvoir éliminer des populations civiles en masse.
Radio Canu.
Canu Info.
Du mercredi.
Alors, la trêve hivernale, c'est la trêve qui est censée mettre en pause les expulsions de logements chaque année entre début novembre et fin mars. C'est une trêve qui concerne aussi bien les logements loués que les logements squattés. Vient d'être étendue par Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée chargée du logement, jusqu'au 1er juin prochain en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Donc, alors, en 2020 déjà... Grâce à la pandémie, la trêve avait été repoussée de plus de 3 mois, puisqu'elle a été repoussée jusqu'au 10 juillet 2020. Pourtant, paradoxalement, le nombre des expulsions risque, lui, d'exploser. Comme le souligne France Info, 30 000 procédures sont en cours, soit 2 fois plus que la moyenne annuelle. Donc, évidemment, prolonger la trêve hivernale, ça n'a pas empêché les impayés qui se sont multipliés et qui se sont transformés en des dettes irremboursables et puis avec eux, les procédures d'expulsion inévitables. Donc ils ne font qu'être retardés en fait. La crise sanitaire étant aussi économique, les bailleurs sociaux ont totalisé 65 millions d'euros supplémentaires de retard de paiement fin 2020 par rapport à l'avant-crise. Et puis malgré les dispositifs d'échelonnage qui ont permis de maîtriser en partie cette dette, mais les difficultés des locataires s'accroissent tout de même. Alors la Fondation Abbé Pierre vient de rendre son rapport annuel qui fait état de 4,1 millions de personnes mal logées en France, dont 300 000 sans domicile, et annonce un effet bombe à retardement, puisqu'évidemment, avant le loyer, ce sont les autres dépenses que l'on rogne d'abord, et puis on verra la conséquence sur les loyers un peu plus tard. De 20 000 à 30 000 places d'hébergement avaient été créées pendant le premier confinement et pérennisées. Alors c'est un effort important que reconnaissent les associations comme Médecins Sans Frontières ou la Fondation Abbé Pierre. Alors pour la première fois de son histoire, je cite Manuel Domergue de Médecins Sans Frontières, pour la première fois de son histoire, le 115 de Seine-Saint-Denis, pendant une nuit, a pu pourvoir toutes les demandes. C'est suffisamment rare pour être souligné.
Ouais, c'est dire où on en est, quoi.
Waouh. Alors, on ne précise pas la date, mais c'est historique, quoi. C'est une date anniversaire à retenir. Alors, plus largement, par contre, sur la période, les demandes non pourvues ont baissé avant de remonter et de revenir à leur niveau d'avant-crise à peu près au mois d'août 2020. C'est-à-dire il y a eu un petit effort et puis ensuite plus rien. Donc même au plus fort de la mobilisation, 1500 demandes en moyenne restaient non satisfaites chaque nuit. Ça c'est pour, je pense, seulement le département de Seine-Saint-Denis. La Fondation Abbé Pierre regrette encore que la crise n'ait pas été l'occasion, au-delà des ouvertures de places d'hébergement d'urgence qui, à peine créées, comme on le voit, ont déjà été saturées, de favoriser plus largement l'accès direct au logement, c'est-à-dire le cœur du problème. Cette fondation Abbé Pierre, elle relève par exemple que dans le plan de relance qui a été voté à la rentrée 2020, 0,8% des 100 milliards sont consacrés aux personnes vulnérables. Donc c'est dire la part qui est dévolue au logement. Alors, cette décision de prolonger la trêve hivernale entraînerait aussi, selon un article du Parisien, une trêve des coupures d'énergie suite à des factures de chauffage impayées. Mais qui dit trêve des coupures dit trou dans la trésorerie d'EDF. Et donc ça, c'est hors de question. Donc EDF a pris les devants. Et le 1er février, la facture moyenne d'électricité des 23 millions de foyers encore abonnés aux tarifs bleus d'EDF, c'est-à-dire les tarifs pour pauvres, a augmenté de 1,6%, soit environ 15 euros annuellement. Ce qui est pas rien quand on a un petit budget. EDF justifie cette nouvelle hausse des tarifs réglementaires par des coûts de production et de distribution plus élevés, mais pas seulement, puisqu'ils se prémunissent ainsi par anticipation d'une hausse du nombre de factures d'impayés du fait donc de cette crise. À cette hausse s'ajoute aussi l'harmonisation par le haut de la taxation locale et d'EDF qui va toucher les foyers de milliers de communes où le taux était jusqu'ici assez bas et qui va donc rejoindre le taux des communes hautes et qui se traduit donc par un alourdissement encore une fois de cette facture.
Et du coup, tout ça risque d'encore plus augmenter avec le truc où il y a eu des consignes qui ont été données au préfet pour expulser les squats de manière ultra rapide. C'est-à-dire que ça va un peu avec l'espèce de loi là, dont on avait parlé, anti-squatteur qui était passée ou pas passée. Bon, bref, je ne sais plus où est-ce qu'elle en est dans son parcours.
Qui était discutée en tout cas.
Ouais. Et du coup, là, il y a eu des consignes faites du ministère de l'Intérieur passées au préfet, aux préfectures, quoi, pour qu'ils expulsent le plus vite rapidement les squats. Alors, dans la circulaire, ils précisent à un moment quand même que le préfet, il faudrait qu'il fasse un peu attention à reloger, s'ils le peuvent, les gens qu'ils expulsent. Mais voilà. Donc, ta amie squatteuse, méfiez-vous, quoi.
Canu Info.
Alors, victoire, figurez-vous, pour les organisations requérantes de l'affaire du siècle. Cette affaire du siècle, qu'est-ce que c'était ? C'était un truc qui a commencé par une pétition qui a été très massivement signée, puisqu'il y a eu 1 million de signatures en 48 heures et plus de 2 millions, je crois, dans les 2-3 semaines qui ont suivi. Pour poursuivre en justice l'État pour son inaction climatique. Et figurez-vous que l'État a été condamné aujourd'hui. il a été reconnu coupable de cette inaction climatique par le tribunal administratif de Paris. La décision enjoint à l'État de prendre toutes les mesures permettant d'atteindre les objectifs que la France s'est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans le détail, le tribunal administratif de Paris a donc condamné l'État à verser aux quatre organisations requérantes, c'est-à-dire Oxfam France, Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Greenpeace France, à chacune de ces quatre associations, 1 euro en réparation de leur préjudice moral.
Ça fait quand même 4 euros.
Ça fait quand même 4 euros. Attention, les impôts, ça va payer. Ces associations avaient aussi demandé 1 euro symbolique en réparation du préjudice écologique. Mais bon, là-dessus, quand même, le tribunal a dit qu'il ne faut pas exagérer. En fait, c'est un premier jugement et qui est comme provisoire, pour autant que j'ai compris. Le jugement définitif sera rendu après un supplément d'instruction de 2 mois et il faut attendre ce deuxième jugement pour savoir si le procès sera historique. Ce que déjà un certain nombre de titres disaient aujourd'hui, que c'était déjà une condamnation en soi historique. Les associations, en effet, demandaient au tribunal non seulement d'avoir 1 euro, mais elles lui demandaient aussi d'enjoindre à l'État d'adopter des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. Le problème, c'est que le tribunal a trouvé que l'état de l'instruction ne permettait pas de déterminer avec précision quelles mesures pouvaient être ordonnées à l'État pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le tribunal laisse donc 2 mois au ministre compétent pour fournir des observations non communiquées, c'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas dit avant, ils n'ont qu'à le dire dans les 2 mois qui viennent, avant de dire autre chose, quoi. Bon. Au final, on voit donc que ce n'est pas grand-chose, c'est une décision symbolique qui sera sans doute suivie d'une autre décision symbolique dans 2 mois. Et tout ça, c'est symbolique dans le sens où l'État, les différents gouvernements, enfin même pas que celui-là, ne se sont jamais sentis obligés de respecter les lois et les jugements qui ne les arrangent pas. Alors, même si le tribunal rend une décision qui contraint l'État à prendre telle ou telle mesure, dans 2 mois, ça ne donnera sans doute pas grand-chose, en tout cas pas directement. Bon, malgré tout, avec tout le monde qui parle de décision historique à ce propos, c'est sans doute quand même une sorte de petit élément en plus pour rendre possible un jour de véritables mesures environnementales, c'est-à-dire quand même le cauchemar du président.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios. Info.
Le site Un jeune, une solution, c'est la vitrine sous forme de site internet alimenté par Pôle emploi du plan du même nom, un plan à 6,5 milliards d'euros censé répondre aux inquiétudes des 700 000 nouveaux entrants sur le marché du travail lancé en juillet dernier par le gouvernement en réponse toujours à cette crise du Covid. Alors, des militants syndicaux l'ont exploré, ce site, et sur 289 offres examinées, 173 présenteraient au moins une mention illégale, c'est-à-dire plus de la moitié d'entre elles. Alors, super l'offre d'emploi. Hein. Alors,
quand tu dis illégale, ça veut dire qu'elle ne respecte pas le code du travail ou que c'est une pure arnaque ?
Il y a un peu de tout.
Ça
va de l'un à l'autre. Il n'y a quand même pas que des arnaques, mais il y en a. Alors, leur étude porte donc sur 289 offres d'emploi situées à Saint-Denis et jusqu'à 10 km environ dans les domaines du commerce et du bâtiment qui sont les secteurs où de nombreux jeunes commencent leur parcours professionnel. Voilà pourquoi ils ont fait ce choix-là. Parmi les problèmes, il y a les offres inexistantes, des imprécisions, des confusions, des mensonges, où on retrouve par exemple des offres prétendument ouvertes aux débutants qui précisent quelques lignes plus loin qu'il faudrait une expérience d'au moins 5 ans. Alors, voilà, on parle toujours d'emploi des jeunes, hein, donc 5 ans, c'est déjà.
Ça commence à faire pas mal.
5 ans de vie professionnelle, s'ils ont fait des études, c'est plus des jeunes en fait.
Et si ces offres ne sont pas pourvues, ça voudra bien dire que les jeunes ne veulent pas bosser.
Et oui, ouais, absolument. alors ça pourrait être anecdotique, mais c'est bel et bien en plus interdit par ce qui reste du Code du travail, puisqu'il y a un article qui précise, je cite, qu'il est interdit de faire publier une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur. Voilà, et surtout, c'est un peu se moquer de concert entre employeurs et cadres de Pôle emploi des fameux jeunes qu'on prétend aider. Alors, sur les 209 offres dans le secteur du commerce qui ont été analysées par le syndicat, 38 d'entre elles sont des postes à pourvoir au sein du groupe Carrefour. Et parmi ces 38, 34 d'entre elles sont en réalité des contrats de professionnalisation pour un an. Alors sur chacune de ces 34 offres, et il est fait mention, un peu pour appâter le chaland, d'un 13e mois, voire d'un 13,5e mois. Ouais, une prime en fait, alors que dans les deux cas, l'entreprise n'ouvre cette prime qu'au bout d'un an d'ancienneté, et donc ça ne concerne pas ces contrats-là. Voilà. Donc, venez travailler, vous ne serez pas payé. Il y a aussi cette offre illisible où des signes sont venus s'intercaler entre les lettres, cette autre où on ne sait pas si le poste à pourvoir est en intérim, en CDD, en CDI, ce poste d'expert bancaire référencé en tant qu'employé de rayon de produits alimentaires, ou encore cette offre pour un poste de coiffeuse publiée le 7 janvier 2021 qui précise que la prise de poste se fera post-confinement. Une date pour le moins fou. Voilà.
De quoi rassurer sur son avenir, quoi.
Exactement. Alors, autant de façons, en fait, de gonfler artificiellement le marché de l'emploi et de permettre à Macron de dire qu'il suffit de traverser, comme tu disais, Yvan, traverser la rue pour trouver un emploi. Ou de dire, ou qui permet de dire à Elisabeth Borne qu'on peut maintenir le contrôle sur les chômeurs et multiplier les radiations, y compris durant cette période de pénurie de l'emploi. Alors c'est un compte-rendu détaillé qu'on peut lire sur Mediapart et sur le site de la CGT.
Et sur les chômeurs et chômeuses qui sont, enfin classiques quoi, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir un CV en ligne sur le site de Pôle emploi si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, c'est mon cas, mais. Et ben dans ce cas-là vous recevez aucune offre valable, hein, c'est-à-dire, mais vous recevez plein de démarchages mais qui sont de l'or un peu de l'arnaque du bon coin, c'est-à-dire c'est des gens qui vous contactent pour récolter leur loyer parce que eux travaillent en Suisse ou sur une plateforme pétrolière et du coup vous êtes très bien payé pour rien faire, tout ça en liquide, ou alors des offres de, ouais, c'est vrai, hein, et ou des, en gros c'est juste que ça donne accès aux mails, mais c'est pas des annonces qui sont publiées sur Pôle emploi, mais comme ça fait que vos coordonnées, enfin si vous l'acceptez, vos coordonnées sont publiques, ben du coup vous êtes démarché principalement par ce genre de choses et du coup quand même c'est un peu un truc qui est un peu craignos, quoi, parce qu'on imagine que des gens qui seraient un peu qui manquent de filtres sur l'utilisation de leur boîte mail ou pas quoi, comme beaucoup de personnes, bah, peuvent se faire voir, parce qu'en gros l'idée c'est de communiquer son numéro de truc bancaire et de se faire pirater son compte, quoi.
Voilà, puis de se rendre entièrement disponible pour la bonne cause de l'emploi.
Ah, exactement.
Canu Info du mercredi.
Allez, on va se faire une petite pause musicale.
Absolument.
Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir, viens donc visiter des mélanies noires. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la French, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Une belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y'a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois, il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lago. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine.
Et donc nous venons d'écouter
Bernard Lavilliers
qui avec... chantait French Valley. Ouais. Dites donc, les anti-systèmes.
Ah, c'est pour ça qu'on a écouté Bernard Lavilliers.
Non, arrête, on ne peut pas l'assimiler aux gens dont je vais parler. Alors, on avait déjà remarqué que les anti-masques, les coronaseptiques, les anti-vaccins ne sont pas toujours nos amis, mais que malheureusement, des fois, c'est aussi nos amis. On savait que les manifestants et manifestantes contre le masque en Allemagne, aux Pays-Bas, sont quand même plus souvent des fachos ou des cinglés, genre ceux qui sont persuadés que nos gouvernants sont des lézards déguisés en humains, sont plus souvent ça que des camarades. On avait capté que ces anti-systèmes sont souvent du même côté que les Trump et les Bolsonaro. Le site d'info en ligne La Rotative nous sort un article sur les porte-voix en France du mouvement qui défend la liberté individuelle de propager le virus contre la dictature sanitaire. Et donc l'article de La Rotative prend quelques exemples. Alors, il y a ce truc qui s'appelle Sud Radio, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, émet en région parisienne. 276 000 abonnés sur YouTube.
Et qui n'est pas du tout du côté du progressisme.
Ben, c'est ça. Et alors, Sud Radio publie régulièrement des entretiens filmés dont la ligne se situe généralement autour de la surenchère réactionnaire, de la négation des problèmes écologiques, de la diffusion de théories farfelues, le tout au nom de la défense du peuple, du vrai peuple, le peuple. Comme on pouvait l'imaginer, Sud Radio relaye aussi abondamment toutes les thèses qui défendent des points de vue alternatifs sur la pandémie, les traitements, les vaccins, les masques. On comprend que Sud Radio, alors quand Sud Radio parle du peuple, eh ben c'est quand même un peuple très très théorique, très fantasmé. On comprend ça quand on voit à qui cette radio appartient. Cette radio a été rachetée en 2013 par Fiducial, un groupement d'entreprises de services aux entreprises, dirigé par un certain Christian Latouche. Christian Latouche, c'est la 58e fortune de France, il est milliardaire, et il est proche de différentes organisations patronales d'une part, mais aussi d'extrême droite d'autre part.
Mais proche du peuple surtout.
Mais bien sûr, ça ne l'empêche pas d'être proche du peuple, une sorte de macro-lepénisme populaire. Alors, Sud Radio, c'était une chose, mais par exemple aussi, alors faute d'avoir été un bon journal, France Soir a autrefois été un vrai journal. Mais France Soir aujourd'hui a la particularité d'être un journal qui a licencié ses derniers journalistes. Il ne tourne plus que grâce à des contributions bénévoles et à son propriétaire, Xavier Azalbert. Alors, c'est pas la peine de chercher très longtemps pour découvrir que Xavier Azalbert, c'est qui ? C'est un homme d'affaires qui dirige quand même 43 entreprises. Il dirige en même temps 43 entreprises. Il a réussi à faire de François une référence en matière de critique des vérités officielles sur le Covid. Les vérités officielles, c'est les trucs vrais, quoi.
Mais c'est surtout que François, maintenant, c'était déjà un journal quand même pas très reluisant, mais c'était vraiment ce qu'on pouvait appeler un journal. Mais en fait, ils ont juste racheté les droits d'utiliser le nom journal, quoi. Maintenant, c'est quand même vraiment, c'est plus du tout un journal, quoi.
Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais donc voilà, et ben eux ils sont extrêmement là pour remettre en cause ces fameuses vérités officielles sur le Covid. Et dernièrement, c'est François qui a relayé l'appel de Francis Lalanne qui exhortait les plus hauts dignitaires de l'armée à renverser le gouvernement. Alors, entendons-nous bien, précise la rotative. On n'a pas vraiment de la sympathie pour ce gouvernement, ni pour sa gestion autoritaire de la pandémie. On participe...
On en a peut-être moins pour Francis Lalanne.
Francis Lalanne. Nous participons, dit l'article, à des luttes sociales qui contestent ce gouvernement et sa gestion autoritaire de la pandémie. Mais par ailleurs, la prise de pouvoir par des militaires appuyés par des grands patrons, ça ne mettrait pas vraiment fin à la tyrannie, disons que ça installerait plutôt ce qu'on pourrait appeler un régime fasciste. En parlant de fasciste, tiens, Florian Philippot, énarque ancien du FN, se refait récemment une visibilité sur le web, parce qu'il avait quitté le FN pour fonder son mouvement, tout ça. Il partait un peu, tout le monde l'avait oublié. Et donc là, il se refait quand même une visibilité sur le web en publiant des vidéos contre le masque, contre le confinement et plus généralement contre la fameuse dictature sanitaire. Lors d'un rassemblement contre la dictature sanitaire dont il a mis la vidéo en ligne, on assiste à l'intervention de Charles Gave, financier et entrepreneur, partisan de la limitation du rôle de l'État à ses fonctions régaliennes. Quand on dit fonctions régaliennes, on veut dire la répression. Hein. Et président de l'Institut des Libertés. L'Institut des Libertés, c'est quoi ? C'est un think tank qui œuvre pour la promotion du libre marché. Donc, ultra-libéral. Voilà donc de quel genre de personne s'entoure celui, Florian Philippot, qui était censé à l'époque représenter l'aile sociale du FN, il y a quelques années quand il y était. Alors voilà, l'article nous dit qu'on pourrait multiplier les exemples des liens qu'entretiennent ceux que cet article appelle des entrepreneurs de la contestation des vérités officielles. Ce que ces entrepreneurs de la contestation de la contestation des vérités officielles entretiennent comme lien avec des pensées d'extrême droite, ma phrase est merdique, et ou des intérêts capitalistes, mais on comprend à peu près le sens, non ? En incluant tous les farfelus à tendance gourou, comme il parle aussi de ce Silvano Trotta. Alors Silvano Trotta, on a une petite note dans l'article qui nous précise que bon, ma foi, c'est un chef d'entreprise de télécom, que avant la pandémie, il blablatait sur les extraterrestres et la lune creuse, mais qu'il a multiplié son audience par 10 en s'engouffrant dans les théories autour du Covid.
Qui sont plus à la mode que la lune creuse.
Que la lune creuse, ouais. Bon, en tout cas, voilà, tous ces gens surfent sur un ras-le-bol bien légitime de cette situation, ras-le-bol que nous pouvons partager. Par contre, jamais vous n'entendrez tous ces gens défendre de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de protection contre le virus pour tout le monde. Plus d'égalité dans l'accès aux soins, la reprise en main autonome de la réduction des risques, ou même la réquisition des laboratoires pharmaceutiques pour les transformer en un pôle public au service du bien commun, pourquoi pas autogéré, enfin bon, en tout cas, pourquoi pas, parce que c'est donc tous les trucs qu'ils diront jamais. Leur ennemi, bah, ma foi, il est un peu flou, il est un peu vague, il n'est pas trop identifiable, il s'appelle le système. En tout cas, leur ennemi, c'est certainement pas le capitalisme, ni même le néolibéralisme. C'est un concept vide qui sert à avancer masqué. Et leur véritable projet, c'est plutôt la nation au-dessus des clivages de classe et le marché libre soutenu par un État autoritaire.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine.
Ah, excusez, retour du CD qui bug. Alors, on va parler de Mayotte, dont la préfecture s'est lancée au prétexte de la pandémie dans une collaboration avec des sociétés nautiques privées pour surveiller les frontières maritimes de l'île. Alors c'est une première, mais rassurons-nous, c'est du temporaire, affirme la préfète. On sait souvent ce que devient le temporaire. Alors mercredi 20 janvier, c'était mercredi il y a deux semaines, les entreprises du monde nautique ont été conviées à une réunion de réorientation professionnelle inédite. Par SMS et par mail, tous les clubs de plongée, tour opérateurs ou croisiéristes du département ont reçu de la part de Madame Gimonet, sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, une invitation pour, je cite, « une réunion d'information sur la protection des frontières ». Au menu, un appel à volontaires pour surveiller les eaux françaises face aux embarcations de migrants venus des îles voisines des Comores. Alors, selon Mediapart, la soirée a été fructueuse puisqu'au moins deux contrats ont été passés entre les services de l'État des entreprises, entre les services de l'État et des entreprises du secteur touristique. Chaque prestataire entre guillemets, hein, rémunéré à la vacation se voit attribuer une zone, puis des points GPS de détection, des points d'écho en fait, qui leur sont indiqués afin qu'ils aillent vérifier quel type d'embarcation approche. Si le point GPS suspect est un migrant, en provenance de l'île d'Anjouan bien souvent, alors l'un des 8 intercepteurs de la police aux frontières est dépêché sur place. La rémunération est restée confidentielle, mais la préfecture affirme qu'il n'y a pas de prime aux migrants. Alors, c'est une démarche que les services de l'État assument complètement, estimant que le rôle de supplétif qu'ils font jouer à ces professionnels du nautisme se justifie par le caractère dramatique et exceptionnel de la crise sanitaire. Le recours aux pêcheurs serait également à l'étude, ainsi que la mise en place d'un numéro vert auquel signaler toute embarcation suspecte. Bon, finalement, comme aller dénoncer son voisin qui fait des trop grosses fêtes, quoi. Alors, le gag, c'est surtout que Nathalie Gimonet, qui est la sous-préfète, s'inquiète en fait avant tout de la propagation du virus. Elle justifie ces mesures, bien sûr, exceptionnelles et temporaires, de la manière suivante, je cite. Il y a un risque important d'importation du virus par voie régulière et irrégulière. Des mesures sont déployées sur les deux fronts afin que le contrôle sanitaire soit le plus efficace possible. C'est de cela qu'il s'agit, de contrôle sanitaire et pas de lutte contre l'immigration illégale.
Ah bah nous voilà rassurés.
Voilà, alors Nathalie Gimonet, est-ce qu'elle est justement en charge des politiques sanitaires ? Ah bah non, puisqu'elle est bien chef d'état-major chargé de la lutte contre l'immigration clandestine.
Donc, peut-être délégué aux affaires sanitaires.
Peut-être. Alors, le variant sud-africain du Covid est mis en cause, mais s'il circule effectivement sur l'île, en revanche, une seule personne a été testée positive au variant à sa descente d'un Kwasa, qui est le nom donné aux embarcations de migrants. Donc finalement, même là, l'argument tombe à l'eau.
Mais surtout que les épidémiologistes appellent absolument à cesser d'appeler les variants par le nom de l'endroit où il a été trouvé. Parce qu'ils disent que c'est complètement débile, parce que c'est l'endroit où on le trouve la première fois. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est arrivé d'ici. Du coup, effectivement, ce genre de truc où là, clairement, de toute façon, là, il se servait de la situation sanitaire pour justifier des mesures répressives sur les migrants. Mais ça fait un truc où, en fait, bah non, en fait, c'est pas parce qu'on va empêcher les gens d'Afrique du Sud de venir que le variant va arrêter de venir. Parce qu'en fait, il est sûrement présent déjà à plein d'endroits et c'est pas forcément là qu'il est né en premier. Donc c'est complètement con de faire ça, quoi.
Sans compter que ça entretient un peu cette xénophobie. On se souvient de Trump qui disait ce virus chinois.
Ouais, c'est qu'il y a une sorte de mythologie des frontières, comme si la maladie qui venait de l'extérieur des frontières était plus dangereuse que la maladie de votre voisin, qui est peut-être aussi déjà malade.
Qui est peut-être atteint du variant, lui.
Et qui est peut-être atteint du variant, c'est ça. Mais comme si la maladie étrangère risquait de nous faire vachement plus de mal que la maladie française. Moi, des fois, je me demande ici, dans le premier arrondissement, s'il n'y a pas des gens du quatrième qui descendent du plateau de la Croix-Rousse.
Ou pire, de la Guillotière.
Et qui nous ramènent le variant calvirien.
Ah, punaise.
C'est hyper... Non, mais... Ouais. Et les autorités ne font rien.
Ça sache. Il faut que ça se sache.
Eh bien, c'est bien parce qu'on va avoir un petit exemple de quand les autorités font en sorte de tendre une situation de ce qui peut se passer. Et là, on va faire un tour du côté des îles Canaries, qui est redevenu depuis fin 2020 un point de passage assez important pour les exilés venant tenter leur chance en Europe.
Attends, les îles Canaries, c'est où ?
Les îles Canaries. Les îles Canaries. Heureusement que j'ai révisé parce que franchement, j'aurais grave pu sécher sur ce genre de questions.
C'est peut-être que deux ou trois personnes qui... parmi les cancres qui nous écoutent.
C'est au large de l'Afrique de l'Ouest et du Sahara occidental, ouais, à fond, et qui c'est des îles espagnoles. Donc en gros, c'est un des points de passage pas très loin entre guillemets pour des personnes qui veulent tenter leur chance en Europe, comme peut l'être Melilla, suivant les conditions géopolitiques du moment, quoi. Voilà. Et ça vaut le coup quand même de le souligner, c'est un des points très hyper dangereux, parce que là, c'est certes pas très très loin des côtes d'Afrique de l'Ouest, mais c'est une mer qui est souvent hyper violente et il y a quand même beaucoup de morts à chaque fois. Bon, ça c'était pour quand les gens arrivent en tout cas à passer. Et bien en tout cas, ils ont une population locale qui est sacrément remontée et qui a décidé de faire ressortir ses pires réflexes racistes face à ces arrivées, certes en augmentation, mais pas non plus ingérables pour le gouvernement espagnol, qui laisse clairement pourrir la situation en attendant qu'elle se tende pour réagir à coups de bâton et d'expulsion, comme il est de rigueur dans ce genre de situation. La semaine dernière, pas moins de 4 manifestations anti-migrants ont été organisés. Les manifestants parlaient de protéger femmes et enfants face à l'invasion. Les migrants hébergés dans des centres d'accueil n'osent plus sortir. Dans une ancienne école reconvertie en foyer, en une semaine, il n'y a pas eu moins de 4 agressions à l'encontre de migrants qui vivaient là. Des menaces et intimidations qui vont d'arrêter une voiture qui contenait 4 personnes migrantes ou supposées migrantes, hein, d'ailleurs. Les agresseurs avaient des grands couteaux et des pistolets à plomb qui tiraient en l'air et qui en voulaient clairement aux passagers. La voiture a réussi à rebrousser ses chemins. Et ces exemples sont légion. Une rumeur disant qu'un jeune Marocain avait violé une habitante de Grande-Synthe a un peu couru sur l'île. Rumeur dont, comme c'est une rumeur, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Quoi qu'il en soit, ça a déclenché le passage à tabac d'un maghrébin qui résidait sur l'île. Et pareil, sans qu'on sache du tout si cette personne était en lien avec la rue. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Donc voilà, il s'est retrouvé hospitalisé dans un état grave. Des jeunes qui étaient à côté du foyer disaient: nous ne savons pas s'il a fait quelque chose ou non, il a juste eu le malheur de se perdre à un moment sur son chemin de retour. Une enquête a été aussi ouverte contre plusieurs personnes faisant partie d'un même groupe de discussion WhatsApp. Qui tentait de s'organiser pour chasser les migrants. Et pour ce qui est de la teneur des messages, l'enquête a notamment été ouverte car un appel à se rendre sur le sud de l'île de Grande Canarie était prévu afin d'attaquer un complexe touristique servant de lieu d'accueil pour migrants. Voilà. Human Rights Watch dénonce une situation prévisible. Le gouvernement espagnol se sert de l'île comme d'une prison à ciel ouvert pour les exilés retenus là, alors que la quasi-totalité souhaite aller sur le continent. Les transferts sont très rares, alors même que le nombre d'arrivées est passé de 3000 en 2019 à 20 000 en 2020. Alors certes, ça c'est beaucoup pour des petites îles, mais c'est une goutte d'eau à l'échelle de l'Espagne continentale et c'est une dose homéopathique à l'échelle européenne. Bref, on voit là un peu un exemple de... J'espère que ça va pas devenir un peu pareil à Mayotte, même si c'est aussi une situation clairement tendue. Mais on voit que les États qui ont des espèces de mini résidus de colonies qui leur servent à plein de moments, là, s'en servent clairement aussi comme de zone un peu pour se décharger des migrants qui veulent venir, alors qu'il serait quand même clairement pas très compliqué de les intégrer sur les territoires et de les répartir, quoi. Donc voilà.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va terminer avec un petit conseil de lecture qu'on trouvera sur Ballast qui s'intitule « Comprendre la violence judiciaire ». Puisque après les violences policières qui, lorsqu'elles sont montrées, diffusées, nous sature un peu de cris, de coups. Après tout ça, quand survient la violence judiciaire, elle qui est plus subtile, qui frappe à l'abri des regards, derrière les portes feutrées des tribunaux, on pénètre là-dedans en s'intéressant un peu aux coûts de la défense, à l'impunité policière structurelle, à la mise en accusation de la parole de la victime. Ballas s'intéresse du coup dans un article qui est disponible en ligne à l'institution judiciaire sous forme de dialogue avec les avocates Lucie Simon, Camille Vanier et Ainhoa Pascual. On apprend autant de choses diverses que comment se termine une plainte, dans quel cas intervient l'IGPN, quel est le postulat d'un tribunal sur un policier suspecté de violence. Enfin bref, de quoi apprendre pas mal de choses et autant dire que c'est assez glaçant.
Tu peux nous redonner le titre de l'article ?
L'article s'intitule « Comprendre la violence judiciaire ». Voilà, c'est disponible en ligne sur le site de Ballast.
Et c'est d'autant plus intéressant en ce moment que, alors que là, normalement les tribunaux sont censés être ouverts aux personnes qui souhaitent voir les audiences, c'est-à-dire n'importe qui sans rien avoir à justifier, en ce moment les audiences sont complètement, se font complètement à huis clos, ce qui empêche quand même pas mal de trucs et ce qui rend complètement opaque la justice qui est donnée.
Voilà, et on peut aussi peut-être conclure sur la grève manifestation de demain. Il y a une mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale qui se tiendra à la manufacture des tabacs à 11h. Voilà, et qui ira je ne sais pas où, mais ça a l'air d'être une manif quand même.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés.
Et puis écoutez, peut-être bien la semaine prochaine. Hein.
Passez une bonne soirée.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.